clair.
Sud Radio, il est 4h. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Eh bien, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. On va aller faire du vélo ce week-end alors, non,
vous,
non
vous, oui.
Vous, pas vraiment, non.
D'accord. Voilà. Alors, bienvenue à toutes et à tous dans les vraies voix sur Sud Radio. On parle vrai comme tous les soirs, vous avez la parole. Sud Radio, c'est votre radio. Vous nous appelez hein, pour parler vrai, évidemment, au 0826-300-300. Vous n'hésitez pas aussi à voter à nos questions du jour sur Twitter. Ou nous rejoindre d'ailleurs sur Facebook, Instagram, TikTok, notre chaîne YouTube hein, qui a dépassé les 900 000 abonnés. C'est un grand succès, merci à tous. Alors au sommaire pour vous, on a un grand débat à 17h30. La crise des vocations à l'école pour la rentrée 2024 est alarmante, comme le souligne le président de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Cette situation met en lumière un problème majeur dans le système éducatif français, exacerbé par les difficultés de recrutement dans certaines académies telles que Versailles et Créteil, reconnues hein, par la ministre de l'Éducation Nicole Belloubet. La rémunération peu attractive des enseignants en France contribue à cette crise, alors que les élèves rencontrent de plus en plus de difficultés de concentration et d'apprentissage. Ce qui nous amène à la question qu'on vous pose sur X, donc Twitter, hein. Est-il encore possible d'enseigner sereinement dans les écoles? Vous votez, n'hésitez surtout pas. Ensuite, cher Frédéric.
Oui, parce que vous avez tout dit.
D'accord, et bien si j'ai tout dit.
Et à 18h30, le coup de projecteur.
Alors, maintenant. Le coup de projecteur à 18h30. Les élections européennes arrivent ce dimanche 9 juin. Selon un sondage IFOP, 46% des Français sondés ressentent de l'inquiétude envers l'Europe. Sur les 60 ans de construction européenne, 43% jugent qu'il y a des effets plutôt positifs, 38% des effets plutôt négatifs et 19% estiment qu'il n'y a pas vraiment eu d'effet, bien que le sentiment de fierté d'être européen soit toujours présent chez 59% des Français. Ce chiffre a légèrement diminué hein, depuis 2021 où il était de 63%. Et résultat, on vous le demande aussi hein, sur X. Est-ce que vous vous sentez concerné par les élections européennes? N'hésitez surtout pas à aller voter sur le compte X de Sud Radio et à nous appeler au 0826-300-300.
Les éditorialistes ce soir, les trois vraies voix, nous les saluons. Bonsoir Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur des libres propos d'un inclassable. À la nouvelle librairie.
Bonsoir, chers animateurs.
Oui, au pluriel.
Voilà. Oui.
D'où le chers animateurs.
Voilà.
Nous avons également Françoise Degoy, éditorialiste Sud Radio et auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis. Mais de qui parle-t-elle?
Certainement pas de vous.
Mais c'est vrai, j'en ai plein.
Comment ça va, les loulous? Ça va bien.
Justement, on parlait d'amis. Abel Boyi, président de l'association FR Tous Uniques et Tous Unis et auteur de l'ouvrage Qu'est-ce qu'être français? Alors, qu'est-ce qu'être français?
Bonsoir à toutes et à tous.
Et puis, on va aussi vous nous appeler. Hein, on vous l'a dit, 0826-300-300, on file au standard. Bonjour Simon.
Oui, bonjour Judy, bonjour Frédéric, bonjour aux intervenants et aux auditeurs de Sud Radio.
Bonjour, vous nous appelez du Nord à entendre votre accent, non? Vous êtes d'où?
Du Nord du Sud, du Nord de l'Espagne.
Du Nord de l'Espagne. Alors non, si j'osais du Nord de la Catalogne quand même, non?
Voilà, ouais. Oui, ça reste à la Catalogne.
Perpignan.
Et voilà.
Alors vous avez un petit coup de gueule, Simon, vous nous en donnez un petit aperçu, puis on va continuer juste après, hein. On vous écoute.
Ben, c'est pas un petit coup de gueule, c'est un grand coup de gueule. Je suis quand même surpris de l'attitude de notre président de la République qui se fait des discours de satisfaction personnelle de son bilan. Et je suis quand même sidéré de voir ce manque de clairvoyance.
Alors je crois que vous allez faire des heureux. Je sais pas comme ça, mais je vois autour de la table, surtout qu'on vient de parler d'un livre précédemment avec Françoise, L'homme qui n'avait pas d'amis. Je pense que c'était.
Eh bien, je pense que je vais probablement atténuer le propos, en fait.
Ah, d'accord. Bon, ouais. Alors on vous retrouve dans un instant. Mais avant, Judith.
Mais avant, le répondeur. Et c'est Pierre de Bordeaux qui nous a laissé un message. On écoute.
Bonsoir, Pierre Bordeaux. Je voulais dire que je suis fier que les Jeux Olympiques soient organisés en France. C'est la preuve que nous avons la capacité de les organiser. Je n'entends que des critiques et des choses négatives, mais le principal, et j'espère que ça se passe bien. Ça, c'est un premier point. Ensuite, je suis étonné d'entendre qu'on utilise les bénévoles à travailler sans les payer. Mais Bénévole, ça veut bien dire avoir des actions motivées et qui ne sont pas payées en retour. On n'est pas obligé de tout traiter par le biais d'un salaire, par le biais monétaire. Il faut quand même rester dans les choses qui se donnent aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Au revoir.
Et oui, alors hier on a fait une consultation, il y avait 95% des auditeurs qui avaient répondu qu'ils n'étaient pas fiers des Jeux Olympiques. Quand j'ai entendu sur le répondeur...
Ah, ça vous a fait plaisir.
J'ai dit, oui, super. Une réaction autour de la table, c'est Philippe Bilger.
Encore une fois, j'admets bien volontiers qu'on soit fiers que la France puisse organiser les Jeux Olympiques. On verra si elle les organise correctement, mais pour le reste, on n'est pas obligé de tomber dans le délire personnel pour les Jeux Olympiques.
Vous parlez de qui ? Vous parlez de moi ? En me regardant en plus.
Non.
Honnêtement, ça, c'est une projection. Moi, je suis vraiment dans le délire. Et quand je vois comment la flamme a été accueillie à Marseille, quand je vois ce qui s'est passé hier soir, je ne sais pas si vous avez vu l'arrivée du Bélème, quand vous voyez l'enthousiasme et tous les copains qui sont à Marseille, pas simplement ce qu'en disent les journalistes, disent c'est ça déborde de tous les côtés, tout le monde est dans les rues. Franchement, je pense qu'ils sont enfin en train de s'incarner, ces Jeux Olympiques. Je suis persuadé que ça va être une fête et je pense que, bon, allez, si Zidane est le dernier porteur de flamme...
Ah oui, vous militez pour, François.
Comme tout le monde ici autour de cette table, Marie-Josée Pérec. Et quand on va voir la cérémonie d'ouverture sur la scène, on va être à genoux et je pense qu'on va être...
Et on sera enfin contents.
Judith, exactement. C'est-à-dire que voilà, on est les râleurs, les gaulois réfractaires et les 95%, vous allez voir, ils seront devant leur télé en disant « Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, quand même, c'est beau. » Je suis sûr.
Abel, ça marche comme ça à chaque fois.
Abel, en plus, il a un truc personnel.
Oui, mais je suis pas censé le dire encore.
Allez-y, vous allez sortir la flamme ou pas, non ?
Non, j'ai un membre de ma famille qui fera partie des porteurs de la flamme.
Oh, c'est la classe.
Donc, ça sera annoncé en temps et en heure, mais non, je ne peux pas le dire encore. Non,
parce que si on se réfère à votre nom, on se dit qu'il y a des footballeurs, par exemple.
Pas forcément, tout de suite le cliché facile.
Oui, pourquoi Boli ? Vous connaissez Boli, le footballeur ?
Basile Boli, je connais.
Non, Boli et Boli, il y a quand même une différence entre le buteur marseillais et le joueur qui évolue en première ligue anglaise.
Il n'est pas dans le domaine du foot, mais il est dans le domaine du running. Voilà.
J'ai eu peur quand j'ai vu BO et Y, je me suis dit, non pas invité Boyard.
En tout cas, honnêtement, Basile Boli a été le premier relayeur ce matin. Il est descendu de Notre-Dame de la Garde. C'était absolument génial. Héros de Marseille. Hein. Un but final, Milan AC à la 44e
minute.
Pense
que je dis que c'est mon ami Abel Boyi et qu'il pense que je confonds Boyi et Boli. Il m'a mis plus bas que terre.
Mais non,
tout
de suite.
Je
peux terminer ma carrière là-dessus.
Vous êtes susceptible.
Termine
ma carrière là-dessus. Allez, 0826-300-300, on retourne au standard.
Remets de l'ordre un peu.
Voilà, pour retrouver notre cher Simon qui nous appelle de Perpignan. Simon, on vous écoute, votre coup de gueule sur le discours du président, sur ces 7 ans de présidence.
Mais 7 ans de présidence, je sais pas, je crois qu'on n'a pas vécu les mêmes années et au même endroit, parce que lui estime qu'il a tout bien fait, ou presque. Bon, il a émis quelques, pas des regrets, mais quelques réserves, comme il se doit. Mais bon, j'ai du mal à comprendre, je crois que on ne doit pas vivre dans le même pays. C'est pas possible. Il a un déni de réalité, c'est impressionnant. Et on voit pas les mêmes choses, on vit pas les mêmes choses. Bon, on n'est peut-être pas du même milieu social, c'est peut-être pour ça. Voilà ce que j'avais envie de dire.
Philippe Bilger, est-ce que c'est un problème de milieu social ?
On n'a jamais entendu un président de la Ve République s'accabler lui-même. Objectivement, peut-être qu'Emmanuel Macron est trop content de lui, ça peut arriver, et il l'est certainement, mais en général, les présidents, parlant de leur bilan ou de leurs actions, ont tendance à les surestimer.
Oui, bien sûr, c'est pas l'apanage. C'est pour ça que je mets des bémols, c'est absolument pas l'apanage d'Emmanuel Macron. Je vais vous ressortir, on va faire des confettis et des colliers de fleurs, l'ensemble des interviews de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, de François Mitterrand, y compris du général.
C'est vrai, mais à une différence près, c'est qu'Emmanuel Macron s'est auto-incarné comme le seul à faire entrer la France dans un nouveau monde. Donc il est tributaire de cela.
Là où je pense que Simon a raison, ce qui choque vraiment les Français, c'est que lui, pousse au paroxysme ce narcissisme que, républicain de la 5e. Il le pousse vraiment au paroxysme. Il y a une part, Nicolas Sarkozy, quand il fait son bilan en disant j'ai un bon bilan, ou Lionel Jospin, ils savent très bien que le bilan... Emmanuel Macron, là où Simon a probablement raison, c'est qu'il est intimement persuadé, véritablement, c'est pas de la com, il pense vraiment que tout ce qu'il a fait, c'est juste. C'est ça, la différence entre lui et les autres.
Mais il essaye de positiver, c'est bien pour un manager de dynamiser. Pas, non, je pose la question.
Un manager qui ne positive pas n'est pas un manager, mais la problématique d'Emmanuel Macron, et même si on n'est pas d'accord, je maintiens, c'est quand même le président le plus jeune de la 5e République, et notamment vis-à-vis de la jeunesse, il a incarné quelque chose de renouveau. Il y a beaucoup de gens qui ont cru qu'effectivement, la politique de papa à maman, c'était fini, et il y a beaucoup de déceptions, parce qu'on se rend compte que c'est un jeune vieux au final.
Bien sûr, voilà. Absolument, il fait la politique à la papa, en pire même
voilà,
d'ailleurs.
Tout à fait.
Allez, chers auditeurs, vous restez
bon,
avec nous.
Bon, Simon, il est content d'être venu.
Judith, je lance juste un truc drôle. Pareil. Ça va être drôle.
Allez-y, Frédéric,
si jamais
drôle.
Vous voulez défendre Emmanuel Macron, n'hésitez pas. 0826-300-300. Pardon, Judith.
Et on reste avec Simon. Hein. Simon, vous restez avec nous tout au fil de cette émission.
Oui. C'est marrant, ça sonne pas, Judith, le standard, c'est bizarre. C'est incroyable, ça va, il n'y a rien. Il se passe rien.
Juste après, dans un instant, vous allez retrouver les trois mots dans l'actu de Félix Mathieu et puis le réquisitoire de notre procureur du jour, Philippe Bilger. Allez, à tout de suite.
Sud Radio au bagne.
95.1.
Sud Radio.
Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Toi si t'étais là. Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Les fous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là?
Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Dans un instant, vous allez retrouver les trois mots dans l'actu de Félix Mathieu, mais tout de suite, c'est le réquisitoire du procureur.
Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger.
Maître Philippe Bilger, alors la nuance en politique, une force ou une faiblesse?
Oui, alors c'est en lisant une nouvelle fois une ineptie de Louis Boyard sur le fait qu'il y avait un génocide à Gaza que je me suis demandé si si, au-delà de la vie intellectuelle où la nuance est évidemment une force, et d'ailleurs, il y a un grand livre qui a été écrit par un journaliste du Monde, Le courage de la nuance, et je pense qu'aujourd'hui, en effet, sur le plan intellectuel, il faut du courage pour accepter d'aller vers la vérité avec de la nuance. Est-ce qu'en politique, la nuance est possible ? J'ai l'impression que, même si on la souhaite, la manière très partisane, très structurée dont l'espace politique est construit interdit, soit par fidélité à une pensée partisane, d'aller vers la nuance, soit parce qu'on est incapable de comprendre qu'une forme de nuance qui permettrait de demeurer fidèle à un parti aurait beaucoup de succès en France. Je suis persuadé que si des politiques, des personnalités de gauche ou de droite comprenaient dans les débats ou même dans les monologues qu'à un moment donné il est permis peut-être de paraître douter de soi pour avancer ensuite quelques convictions, eh bien je crois que ça rapporterait. Je continue à penser que le simplisme en politique est dévastateur malgré le fait qu'il domine.
Françoise Degoy.
Moi, c'est vrai, c'est faux ce que vous dites. Je pense que la nuance est possible dans les temps calmes. Quand les temps deviennent chaotiques, de fait, parce qu'il y a une accélération de l'histoire et du retour du tragique de l'histoire, la nuance devient de moins en moins audible. Mais je vais à l'encontre de ça quand je vous dis par exemple que Édouard Philippe gagne 30 points dans les sondages quand il dit simplement « je ne sais pas tout ».
Absolument.
Voilà. Et donc ça veut dire aussi que les Français sont tout à fait sensibles à ça. Et les Français sont aussi sensibles. Alors, le débat est furieux, il est furibard. On voit bien ce qu'imprime la France insoumise. Moi, par exemple, je n'accepte pas qu'on ne dise pas de moi que je suis une femme de gauche à 100%, et je ne suis pas du tout d'accord, et je rejette de tout mon être la stratégie choisie par Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pas pour ça que je fais partie du Printemps républicain et que j'ai la moindre acquaintance possible avec le Rassemblement national ou la droite. Et je pense que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a une polarisation. Mais je pense que tout ça est en train d'éclater et qu'on va revenir aussi à une forme de nuance.
J'aime bien vous provoquer, je ne sais pas, ce soir, ça me tente. Est-ce que finalement, la nuance, ce n'était pas une démarche centriste à Belboy?
C'est vrai, c'est pas bête.
Oui, c'est une question qui est nuancée d'ailleurs.
Oui,
mais moi, je répondrai de façon, pour éviter la provocation, de façon plus globale. Je pense que la nuance est indispensable aujourd'hui. Parce que moi, je suis beaucoup auprès des jeunes sans avoir la prétention d'être un porte-parole. Aujourd'hui, on en a marre de voir des Iron Man et des Iron Woman qui connaissent tout, qui savent tout et qui ne savent pas reconnaître lorsqu'ils ont tort. Le doute est quelque chose de très important, philosophiquement, même anthropologiquement parlant. Donc, il faut de la nuance et surtout, ce manque de nuance fait quoi ? Comme tu l'as très bien dit, on est dans une société de l'hystérisation. C'est-à-dire que lorsque je vais dire une chose qui va peut-être aller dans le sens de l'extrême droite, je vais me faire taxer de bounty, de vendu. Et lorsque je vais dire une chose qui va aller peut-être du côté de l'extrême gauche, on va me traiter de sale wokiste, de personne qui veut renverser, alors que pas du tout. Sur cinq sujets, on peut être d'accord sur deux sujets et avançons à travers le contradictoire sur les trois autres sujets. Et aujourd'hui, les politiques ne savent plus le faire, malheureusement.
Il faut s'entendre sur le fait que la nuance n'est pas l'absence d'affirmation.
Mais bien entendu.
Je veux dire, la nuance, c'est une certaine manière d'exprimer.
Prenons par exemple le Proche-Orient, qui est aujourd'hui, on a bien compris, ce qu'a choisi Jean-Luc Mélenchon, c'est une stratégie de bout de feu, il ne lâche pas dans chaque mot, dans chaque texte, dans chaque attitude, c'est vraiment Israël, génocide, assassin, vendu, tous les gens qui reconnaissent pas ça, en gros, sont des fachos d'extrême droite liés à Netanyahou, ok ? Après, vous avez, de l'autre côté, Meir Habib, qui est complètement, qui fait un mal, de mon point de vue, en plus à la communauté juive française, parce qu'il est là, ça, au milieu, c'est très difficile aujourd'hui d'arriver à tenir les deux bouts, c'est-à-dire
la nuance, c'est la solution à deux États.
La stratégie française gaulo-mitterrandienne, deux États avec sécurité absolue israélienne. Mais quand même, on y arrive. Et moi, c'est ma conviction absolue, c'est que les Français sont moins bêtes que ce que croient certains politiques.
Allez, cet échange est passionnant, mais on va passer aux trois mots dans la question. Mathieu, c'est parti.
La maîtresse. Les vraies voix Sud Radio.
Vos trois mots du jour, Félix: Marseille, Moscou et Mayotte.
C'est parti, la flamme olympique est partie de Marseille. Basile Boli l'a brandi en premier sous la protection de la bonne mère au lendemain de son arrivée avec Jules, en invité surprise sur le Bel Em. La Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial, mais nos forces nucléaires stratégiques sont toujours en alerte. Déclaration menaçante, encore une, de Vladimir Poutine aux commémorations de la victoire de 45. Et puis le choléra fait un premier mort à Mayotte, un enfant de 3 ans succombe à l'épidémie.
Les vraies voix Sud Radio.
C'est parti, les relayeurs s'enchaînent après la surprise Jules. Hier soir, c'est une légende du foot marseillais, Basile Boli, qui a brandi en premier la torche olympique. Tout à l'heure, la France a réussi la toute première épreuve de ces JO. Réagit Didier Arinaud, directeur du cabinet Pro Tourisme, après ces scènes de foule massée dans la cité phocéenne.
Ça met à l'honneur Marseille, qui est une superbe ville, une superbe destination, qui est souvent d'ailleurs stigmatisée pour ses problèmes à Marseille Nord. Mais la réalité, c'est que c'est véritablement une superbe destination. Ça ancre aussi le caractère méditerranéen en partie de notre pays. Donc je trouve que c'est une belle manifestation. Espérons que la suite se déroule de la même façon. Nous avons besoin d'une belle image de notre pays et dans la joie, dans le partage, dans l'esprit de l'olympisme en quelque sorte.
Didier Arinaud du cabinet Pro Tourisme avec Stéphanie Demuru ce matin sur Sud Radio.
Le deuxième mot, Moscou, la Russie célébrait aujourd'hui la victoire de 1945 de leur côté.
Oui, avec un défilé pour le coup d'un autre style que celui d'aujourd'hui à Marseille. Du côté de Moscou, sur la place Rouge, on était plutôt sur du kaki, des chars, des camions pour célébrer cette victoire de 1945. En question de fuseau horaire, les Russes célèbrent la victoire soviétique contre le nazisme un jour après nous. En tout cas, le président russe Vladimir Poutine en a profité pour évoquer l'actualité avec des propos en forme de menace à peine voilée. La Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial, mais dans le même temps, nous ne permettrons pas que l'on nous menace. Nos forces nucléaires stratégiques sont toujours en alerte. La Russie traverse actuellement une période difficile et cruciale. Le destin de la patrie et son avenir dépendent de chacun de nous, ajoute Vladimir Poutine pour ce défilé du 9 mai. Autre conflit, ces bombardements israéliens sur Gaza et cette première diplomatique et militaire, les États-Unis, qui menacent pour la première fois de stopper leur transfert d'armes si jamais leur allié israélien menait une offensive majeure sur la ville surpeuplée de Rafah près de la frontière égyptienne. Israël demande aux Palestiniens d'évacuer l'est de la ville de la bande de Gaza. 80 000 personnes ont fui la zone en 3 jours selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés.
Troisième mot, Mayotte, où l'épidémie de choléra a fait un premier mort.
Un enfant de 3 ans y a succombé dans la commune de Kungu, annonce la préfecture et l'agence régionale de santé. Plusieurs cas de choléra avaient été identifiés sur place ces dernières semaines. Premier cas mortel alors que le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, est attendu sur l'île française de l'océan Indien aujourd'hui. Le déplacement d'ailleurs était prévu depuis plusieurs jours. Les premiers cas de choléra à Mayotte avaient été recensés mi-mars chez des personnes revenant des Comores, les îles voisines des Comores, où l'épidémie flambe déjà avec 98 décès selon le dernier bilan officiel pour ce qui est des Comores.
On passe au rolling des européennes avec Reconquête qui talonne LR.
Oui, la liste de Marion Maréchal en hausse d'un demi-point à 6,5%. François-Xavier Bellamy baisse d'autant et se trouve donc à 7,5%, juste un petit point devant. Avant eux, on trouve évidemment toujours la liste Bardella du RN à 31,5%. La liste Ayé de Renaissance à 17%. Le PS à 13%. Puis LFI à 8,5%. LFI à 8,5% quand les écologistes de Marie Toussaint sont désormais 2 points derrière la France Insoumise, 6,5% pour ce qui est des écologistes.
Merci Félix.
On est pile dans le timing. Bravo Félix.
Au top. La crise des vocations à l'école pour la rentrée 2024 est alarmante. La France rémunère mal ses professeurs et certaines académies comme Versailles ou Créteil peinent à recruter, sans oublier les élèves qui rencontrent des problèmes croissants de concentration et d'éducation.
Alors parlons vrai, c'est le débat qui arrive dans un instant. Notre question du jour: recrutement enseignant. Est-il possible d'enseigner sereinement dans les écoles? Donnez-nous votre avis sur le compte X de Sud Radio, appelez-nous au 0826 300 300. Sophie Vénétité, secrétaire générale du syndicat SNES FSU, sera avec nous. Bonsoir, juste en un mot, Sophie Vénétité.
Bonsoir, Sophie.
Ça donne toujours envie quand même d'être professeur ou pas?
Alors, enseigner, c'est un très beau métier. On aime beaucoup faire ce qu'on fait, mais c'est devenu très difficile et on ne se sent pas forcément très soutenu, y compris par les décisions gouvernementales.
Vous nous en parlez dans un instant avec nos vraies voix.
Allez, vous restez avec nous. Hein. Le grand débat du jour, c'est tout de suite.
Sud Radio Bayonne.
103.9.
Sud Radio.
Si j'étais un autre homme, un autre fils, un autre frère, si j'en voulais pas à la terre entière, si j'étais un autre gars, un chic type, un bon père, si j'étais pas autant accro à la bière, si maman était pas là quand tout va mal, si papa était pas là, ça c'est plutôt normal. Si j'avais pas autant plané au lycée, je serais pas là devant toi pour te dire que j'ai la vie devant moi. Nanana, nanana, c'est pas si mal, c'est pas si mal tout ça. Nanana, qu'un sale gosse, un sale gosse. Nanana, nanana, c'est pas si mal, c'est pas si mal d'être moi. J'suis qu'un sale gosse, un sale gosse. Qu'est-ce qu'il y a? Wow, j'crois que j'me tape un ego trip. Pour remonter la pente, je m'agrippe à ce qu'il me reste confiance en moi. Parce que j'ai pas toujours été celui qu'on croit. Oh non, j'ai pas fini de me taper dessus, de me dire que je suis con, j'en peux plus. Des fous rires, des coups de main, j'en ai donné combien, combien. Et tu serais pas là, devant moi, à m'entendre dire que t'as la vie devant toi. Nanana, 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 c'est pas si mal, c'est pas si mal tout ça. Nanana, 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 je suis qu'un sale gosse, un sale gosse. Nanana, 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 c'est pas si mal, c'est pas si mal d'être moi. Qu'un sale gosse, un sale gosse. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a?
Un sale gosse, un sale gosse.
Qu'est-ce qu'il y a, ouais, qu'est-ce qu'il y a?
Un sale gosse, un sale gosse.
C'est pas si mal, c'est pas si mal tout ça. Je suis qu'un sale gosse, un sale gosse. C'est pas si mal, c'est pas si mal d'être moi. J'suis qu'un sale gosse, un sale gosse. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a?
Un sale gosse, un sale gosse.
Mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a?
Un sale gosse, un sale gosse. Wouh! Un sale gosse, un sale gosse. Un sale gosse, un sale gosse.
Un sale gosse.
Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
Aujourd'hui, vous avez un vrai problème de remplacement des professeurs absents. Vous avez un problème de vocation.
L'école publique est en crise et les professeurs ont perdu la foi et ont perdu la vocation.
Cette crise de l'école à laquelle il faut s'attaquer, rien n'a été fait. On en est uniquement dans les déclarations d'intention.
Aujourd'hui, lorsque vous êtes professeur, vous êtes quasiment éducateur social, psy, et vous devez assurer la police dans les classes, etc. Donc c'est compliqué pour un professeur de faire ce type de métier.
Une crise des vocations donc à l'école pour la rentrée 2024. Un problème majeur dans le système éducatif qui nécessite une réponse urgente au moment où la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, reconnaît que certaines académies sont en difficulté de recrutement, comme à Versailles ou à Créteil. La France rémunère mal ses professeurs et les élèves ont de plus en plus de problèmes de concentration et d'éducation, Frédéric.
Chers auditeurs de Sud Radio, vous répondez à la question du débat. Hashtag recrutement, hashtag enseignement. Est-il encore possible d'enseigner sereinement dans les écoles? Allez, parlons vrai. Seriez-vous prêt à suivre une formation pour intégrer l'éducation nationale? Quel type de professeur seriez-vous? Le contact avec les élèves vous impressionne-t-il? Il y a déjà des réponses?
Ah oui, ça vote. Alors vous dites que non, c'est pas possible d'enseigner sereinement dans les écoles, hein, chers auditeurs, à 88%. On a un petit oui, donc à 12. Et nous avons notre invité, n'est-ce pas, Frédéric, pour en parler?
Sophie Vénétité, qu'on salue de nouveau, secrétaire générale du syndicat SNEF FSU. De nouveau, bonsoir Sophie, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Sud Radio. Alors le principe, hein, un petit tour de table de nos vraies voix qui vont vous donner leur point de vue et vous allez bien sûr nous éclairer.
Oui, alors justement Philippe Bilger, il y a aussi les annonces d'Emmanuel Macron hein, qui veut faire une réforme de l'accès en fait au métier d'enseignant.
Oui, alors en ce qui me concerne, je trouve que... qu'on ne sent plus assez de la part du monde enseignant la fierté de ce grand métier. Je pourrais le dire de la magistrature de la même manière. J'entends bien qu'il y a des crises et sur lesquelles médiatiquement et politiquement peut-être on insiste trop. On a parfois l'impression que le monde de l'éducation est parcouru en permanence et à tout instant et partout par des crises infiniment graves de violence, de délitement de l'autorité. Je crois tout de même qu'il existe encore des zones où l'éducation nationale peut être exercée de manière sereine et correcte. Mais la question que je qui pourrait être posée, c'est de savoir pourquoi, sachant que c'est un très grand métier d'enseigner, pourquoi, lorsque les enseignants en parlent, ils ont si peu, dans leur verbe et dans leur enthousiasme, la conscience, en effet, que c'est un grand métier. Ils vous diront qu'il y a des difficultés, oui. Mais ça n'est pas tout. On garde d'abord l'espérance de démontrer aux citoyens qu'on exerce quelque chose de fondamental, un magnifique service.
Franchement, vous êtes un peu gonflé, Philippe Bilger. Honnêtement, vous retournez véritablement la charge. Vous faites partie des gens, et je vous adore, mais vous faites partie de ces gens qui passent depuis des années leur temps à taper sur les enseignants. Je me souviens, pendant le Covid, on s'est engueulé comme du poisson pourri, vous et moi, pendant le Covid, parce que vous expliquiez qu'en gros, les enseignants étaient un peu des feignasses.
Ça arrive trop souvent.
Et qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui en profitaient pour tirer au flanc pendant le Covid, plutôt que de... Moi, je trouve qu'il y a une partie de la société française qui parle très mal des enseignants. Et je trouve que la fierté dont vous parlez, elle n'a absolument pas disparu. Mais quand vous êtes un professeur, que vous vivez Samuel Paty, quand vous vivez des salaires de mierda, je le dis en espagnol ou en italien, que vous êtes payé au lance-pierre, que vous avez une administration, je sais que c'est votre idole, Gabriel Attal, avant non. C'était Blanquer. Non mais des gens
vous
qui passent
lui faites sa peau quand même.
Non mais c'est pas ça, Philippe.
Des gens
qui passent leur vie en ordre, contre ordre, désordre. C'est-à-dire que là, en ce moment, ils en sont, si vous voulez, à réformer leur propre réforme. Quand vous avez cette invisibilisation de ce qu'est le professeur, je trouve, moi, que les enseignants, et c'est pas du tout, je fais pas un discours électoral, et ben ils ont bien du courage de continuer à parler et continuer à enseigner.
Abel Boyer, justement, dans ces réformes, il y en a une notamment dont on parle beaucoup aujourd'hui, hein, c'est le concours d'accès au métier d'enseignant qui va être déplacé à la fin de la licence. Du coup, c'est Bac plus 5 en ce moment. Et ça sera à Bac plus 3, c'est-à-dire qu'après, ce seront des alternants, en fait, hein, des professeurs stagiaires qui seront rémunérés, d'ailleurs, 900 euros par mois pendant un an et 1800 euros l'année qui suit. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais tout ça participe à la désacralisation, en fait, de ce rôle, du métier même de professeur, qui est un des métiers les plus beaux du monde. Mais j'aimerais, pour compléter ma réponse, donner un fait concret, parce que j'interviens beaucoup dans les écoles. Vous savez, Frédéric, que j'aime beaucoup les citations. Première citation, pour étayer mon propos, Victor Hugo, l'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. Aujourd'hui, les profs se retrouvent à faire et l'instruction et l'éducation. Et moi, j'en veux pour preuve, il y a quelques semaines, j'interviens dans une classe de CE1, hein, donc une classe de 35 élèves, où quand même des mômes, il y avait une situation où des mômes avaient cassé le poignet de leur professeur quand même, en CE1. Mmh. Ou parce qu'il y avait des mômes qui menaçaient de se suicider, la classe qui était au premier étage a été déplacée au rez-de-chaussée, a été changée avec la classe qui était au rez-de-chaussée. C'est aussi ça la réalité. Mmh. Et l'autre expérience que j'ai eue, c'est lorsque vous faites, quand vous êtes à l'entrée du portail d'un bâtiment, et que vous faites la rentrée et la sortie des parents. Le nombre de comportements que vous voyez, pourtant c'est juste un lieu de passage, mais ce que vous voyez c'est extraordinaire, vous pouvez déjà voir des failles éducatives à la manière dont un père ou une mère récupère son enfant, à la manière dont il lui dit au revoir, dont il lui dit bonjour, il y a beaucoup de choses, et effectivement aujourd'hui il y a un rapport qui est plus ou moins conflictuel, selon les territoires bien entendu, avec les différentes académies, et c'est un métier qui n'est pas assez soutenu malheureusement.
Bon, les vraies voix, vous venez de donner votre point de vue, qui est pas forcément d'ailleurs en adéquation les uns avec les autres, on l'a bien compris. Sophie Vénétité, secrétaire générale du syndicat SNES-FSU. Vous allez trancher. Alors, vous vivez ce fabuleux métier. Finalement, de tout ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qui est le plus dur ? C'est la reconnaissance de la profession ? C'est le salaire ? C'est la relation avec les élèves ? C'est la relation avec les parents ?
Je dirais que ce qui est le plus dur aujourd'hui quand on est enseignant, c'est l'isolement, c'est le fait d'être seul face à tous les défis auxquels on est confronté et l'absence de reconnaissance, notamment de reconnaissance salariale. Enfin, aujourd'hui, il faut bien voir, quand on est enseignant, on se retrouve à devoir tout gérer et on est très seul, c'est-à-dire que on est parfois pas soutenu par les rectorats, voire par le ministère. On se retrouve
par les directeurs des écoles aussi, non ?
Parfois aussi par la hiérarchie directe, hein, mais c'est vrai que là-dessus les choses ont un peu changé parce que eux aussi se sont retrouvés dans des décisions, enfin à devoir appliquer parfois des choses du jour au lendemain qui étaient assez incompréhensibles. Et en fait, moi j'ai coutume de dire qu'on est la plus grande enseigne de bricolage de ce pays parce qu'on est toujours en train d'essayer de bricoler tous les jours pour essayer de faire tourner, de faire marcher l'éducation nationale au quotidien. Et on se retrouve face à des choses qui sont assez surréaliste quand on va devoir l'année prochaine, comme on sait qu'on va devoir manquer l'enseignant. Alors la ministre a dit on va recruter des contractuels, donc on va encore recruter. Ce que ça veut dire qu'on va encore recruter en job dating en 30 minutes. C'est ce que fait l'éducation nationale depuis 2-3 ans. Elle fait du job dating en 30 minutes. C'est absolument scandaleux. Il y a des collègues qui arrivent, qui sont quand même des collègues qui arrivent, qui sont absolument pas formés. Et nous on se retrouve à les aider bien volontiers parce qu'on est dans la même galère. Mais est-ce que c'est notre rôle d'aller après faire la formation de ces collègues-là? On le fait parce qu'il faut que ça tourne, il faut que ces collègues-là puissent ne pas être trop en difficulté, même si de fait ils le sont, mais on bricole. Là, la ministre a dit on va recruter des retraités pour faire les groupes de niveau l'année prochaine. Enfin, est-ce que c'est sérieux à un moment de faire ça? Il faudrait vraiment plutôt traiter la question des salaires et des conditions de travail.
Ouais, alors effectivement, l'image est belle avec le bricolage. Avant d'aller au standard...
Oui, vous pouvez nous appeler, évidemment, 0826-300-300, vous réagissez, on est là pour vous entendre et pour vous écouter.
Simon
nous appelle.
Ouais. Simon
de Perpignan.
Oui. Simon, une réaction à notre question. Ça vous aurait dit finalement une carrière dans l'enseignement?
Non, pas vraiment, parce que j'avais pas la vocation pour ça. Mais bon, après, j'ai tout à fait le respect des enseignants, d'autant plus des enseignants que j'ai connus, qui m'ont permis d'arriver où j'en suis. Le monde du bricolage, c'est pas uniquement l'éducation nationale, c'est tout ce qui est régalien, hein. Justice, police. Les retraités, c'est pareil dans ce milieu-là. Je pense que c'est un mal qui se trouve un peu partout dans l'administration. Après, l'éducation nationale, bien sûr qu'il y a un problème de vocation, mais il y a surtout un problème d'autorité, puisque les professeurs n'ont plus l'autorité nécessaire, ils ne sont pas soutenus, ça je l'entends sans mal, et c'est valable ailleurs. Et le gouvernement ne soutient absolument rien, fait simplement des évocations orales grandiloquentes qui vont dans le sens de ce qu'on aimerait qu'il soit fait, mais qui ne font rien. Donc voilà la difficulté. Et après, ça, c'est un phénomène d'échelle. Les hiérarchies intermédiaires suivent exactement la même politique. Donc c'est difficile. Et après, on a aussi la diversité qu'il y a dans certaines régions, puisque on parlait effectivement de disparités géographiques. Quand on a effectivement des gens qui viennent d'une culture différente, donc qui n'acceptent pas certaines choses, les parents et les élèves. C'est difficile de pouvoir maintenir un programme, de pouvoir parler librement, de pouvoir exposer des faits historiques qui sont tout à fait véridiques, où on veut toujours les juger actuellement. Donc c'est une erreur. L'histoire, il faut pouvoir l'assumer, il faut pouvoir l'éduquer pour pouvoir comprendre le présent et peut-être l'avenir.
Philippe Bilger, voilà. Selon le rapport PISA de 2023, quand même c'est important à dire, la France arrive en tête des pays de l'OCDE où le nombre d'élèves touchés par le manque d'enseignants a le plus augmenté. Donc il y a quand même un grave problème.
Bien sûr, mais c'est une interrogation que je formule à l'égard de Madame la Secrétaire Générale. J'ai le triste privilège de l'âge et je peux dire que depuis à peu près 60 ans, je n'ai jamais entendu un syndicat enseignant dire que ça allait bien. Je n'ai entendu depuis 60 ans qu'un monde de l'éducation qui se plaignait, qui dénonçait, qui considérait que ça n'allait pas. Alors je lui pose la question, est-ce que ce pessimisme structurel n'est pas le signe d'une forme de découragement permanent et qui ne permet pas de progresser ?
Sophie Vénétité.
Alors, je vous rassure, on est capable de reconnaître quand les choses avancent, quand il y a des décisions qui sont prises et qui vont dans le bon sens. On a fini par arracher, il y a quelques mois, le fait que les épreuves du baccalauréat aient finalement bien lieu au mois de juin et pas au mois de mars, qu'on avait vu l'année dernière, tous les problèmes qui étaient posés, notamment des élèves qui arrêtaient complètement de travailler au troisième trimestre. On a finalement obtenu que ces épreuves se passent au mois de juin et on est capable de le dire et de le reconnaître. Après, c'est vrai que ce qui est frappant, moi je n'enseigne pas depuis 70 ans, j'enseigne depuis 15 ans, mais ce que je constate, c'est que depuis au moins 15 ans, à chaque fois qu'en tant qu'enseignant, en tant qu'organisation syndicale, on peut tirer la sonnette d'alarme sur quelque chose, notre parole, la parole des enseignants, la parole des syndicats est complètement, et ça est bien souvent, balayée d'un revers de la main. Là, par exemple, on dit, il y a un problème de recrutement, on n'a pas assez de professeurs, on a trop d'élèves dans les classes. La France a le record d'Europe des classes les plus chargées en collège. Et ben, qu'est-ce qu'on nous répond? On nous répond, Jean-Michel Blanquer nous dit, ah oui, vous êtes des ventilateurs à angoisse. On nous dit, non, c'est pas vrai. Ou alors, on nous parle d'autre chose. Donc, à un moment, quand la réalité que vous vivez au quotidien, c'est des classes surchargées, des classes à 30, 35, voire plus, que vous n'arrivez pas à faire votre métier parce que vraiment le quotidien est extrêmement difficile et que les différents ministres qui se sont succédés vous disent « Ah, c'est pas vrai » ou alors « Je vais vous parler de la couleur du ciel », bah effectivement, c'est assez décourageant, c'est assez plombant et ça donne pas une atmosphère qui est propice finalement à avancer, tout simplement parce qu'on est méprisé. Et ça, c'est pas normal qu'aujourd'hui, l'éducation nationale et le monde de l'éducation soient ainsi méprisés.
Françoise de Gaulle. Je redis à mon ami Philippe Bilger que c'est vraiment de la mauvaise foi à l'état pur, parce qu'en plus, j'aimerais... Non, mais je sais très bien qu'est-ce qu'il y a derrière les réflexions de Philippe, c'est que la droite française et l'extrême droite, évidemment, a fortiori, considèrent en gros que l'éducation nationale, c'est un repère de gauchistes qui passent leur vie à se plaindre. Et moi, je suis désolé de vous le dire, je vais dans le sens de ce que dit madame, parce que la réalité, c'est que chaque fois que les profs... Et la gauche a fait pareil avec Claude Allègre, hein, je vous signale, il fallait dégraisser le mammouth. C'est honteux, je veux dire. Ces gouvernements qui se sont succédés n'ont pas donné les moyens. Moi, j'entends ce que dit Simon, et il a tout à fait raison. Ces fonctions-là, il faudrait qu'elles soient préservées. Il faudrait que les enseignants soient revalorisés d'office. Les magistrats, les policiers et la pénitentiaire d'office. C'est ces fonctions-là qui tiennent la société. Et il faudrait aider les profs depuis des années, demandent des psychologues. Les profs depuis des années demander médecins, bien sûr qu'ils donnent le sentiment de se plaindre, mais ils ont des raisons quand vous voyez dans quelles conditions, dans certains établissements, ils travaillent. Et le deuxième point, mais ça c'est une vraie question, j'en ai marre aussi de cette légende urbaine qui consiste à dire qu'en réalité, en gros, c'est les élèves issus de l'immigration qui mettraient l'éducation à feu et à sang. J'aimerais bien qu'on en termine avec ce fantasme-là. Parce que ce qu'a dit Simon tout à l'heure, en gros, c'est ils n'ont pas la même culture que nous, ils ne peuvent pas s'adapter. C'est vraiment un peu dégueulasse pour la grande majorité des hommes issus de la diversité qui s'adaptent parfaitement bien, qui sont diplômés et qui bien souvent vont faire des études à l'étranger bien tellement bien. Ils se sentent mal dans les universités françaises. Oui,
la qualité de l'élève ne dépend pas de son origine, évidemment.
Discours qui consiste à apaiser ça, oui. Au doigt mouillé, parce qu'on dit, on affirme ça comme une vérité, sans chiffres, sans rien, ça m'insupporte. Ouais.
Au-delà de ça.
Non mais qu'elle réponde
là-dessus. Justement, Sophie Vénétité, vous venez d'entendre, alors il y a cette confrontation entre le monde politique et votre corporation. Est-ce que vous pourriez pas aussi nous dépeindre le tableau de ceux que vous rencontrez au quotidien, les parents, les élèves, parce que ça semble quand même pas si simple non plus.
Bien évidemment, le quotidien n'est pas simple, la société change, l'école est confrontée à de nombreux défis, alors même que nos conditions d'exercice sont pas faciles. Mais après, c'est vrai qu'on sent vraiment que le fait qu'il n'y ait pas un vaste soutien de l'éducation nationale de la part de tout le monde est parfois un problème. Et on essaye de nous donner des solutions un peu toutes faites. On a beaucoup entendu Gabriel Attal parler d'autorité. Moi, je rappelle quand même quelque chose. L'autorité, ça se décrète pas. L'autorité, c'est pas parce qu'on fait 1m80 et qu'on a une grosse voix qu'on a de l'autorité. Sinon, moi qui fais 1m58, j'en aurais pas. Or, pourtant, ça se passe très bien dans mes classes. L'autorité, ça se construit en se faisant confiance, en ayant des élèves qui comprennent pourquoi, à certains moments, on est capable de prendre telle ou telle décision et pourquoi, effectivement, des fois, il y a des sanctions, des fois, on avance différemment, etc. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de construire ces relations-là. parce que on n'a pas le temps, parce que la classe elle est surchargée, parce qu'on a 10 000 choses à gérer, parce que quand vous n'êtes pas en train d'essayer de trouver un médecin scolaire, une infirmière scolaire, et ben il faut faire attention parce que la fenêtre est en train de tomber sur la tête d'un élève. Donc oui, les relations elles sont pas forcément très simples, mais on manque en fait d'appui et de collectif pour gérer tout ça. Aujourd'hui, pour gérer les élèves, pour avancer avec les élèves et les familles, on aurait besoin de travailler en équipe. Sauf quand vous n'avez pas d'infirmière, vous n'avez pas de psychologue de l'éducation nationale, que voilà, moi j'enseigne en lycée, que vous avez la moitié de votre équipe dans votre classe qui n'est pas remplacée, et bien effectivement, c'est plus compliqué que si on était capable d'être ensemble face aux familles et aux élèves.
Abel Bouy, ce qu'on entend, c'est que finalement, c'est même presque un problème de solidarité.
Bien entendu, mais l'éducation nationale fait partie de ces mammouths malades de la société. En réalité, le corps professoral reste le dernier rempart humain pour la réussite à la transmission des savoirs. Ce qu'il est très important aussi de voir, c'est qu'en plus du manque de soutien, le manque d'attractivité, c'est-à-dire que la manière dont fonctionne cette grosse usine, parce que l'éducation nationale fonctionne comme une usine, il y a besoin d'un changement de logiciel vraiment profond, eh ben, on n'a pas pris en compte pendant des décennies que tous les enfants n'avaient pas la même intelligence. Et j'ai l'habitude de dire qu'il y a des enfants qui ont une intelligence théorique, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester 8-10 heures assis sur une table et apprendre. Et vous avez des enfants qui ont une intelligence pratique, qui ont besoin d'activités. Je suis pas sûr que ce soit la solution. Moi, je préconise plutôt une indépendance des établissements scolaires dès l'école primaire, ou même si vous avez un canevas programmatique de l'éducation nationale, qu'on puisse laisser un petit peu la folie dans le bon sens, l'originalité du chef d'établissement, des professeurs, pour pouvoir transmettre ces savoirs, justement. Et aujourd'hui, on le voit, quand vous avez un ou une chef d'établissement, quand vous avez un professeur qui essaie des fois de faire venir des associations, qui essaie de faire venir des acteurs sociaux pour enrichir le cursus scolaire de l'établissement, ben, des fois il y a des barrières parce qu'il faut l'agrément éducation nationale, sinon on estime que vous n'êtes pas assez bon. Des fois vous essayez de mettre des activités, ben, c'est votre hiérarchie qui vous met un stop, donc ce n'est pas évident. Je pense que vraiment il faut laisser l'originalité humaine vraiment se manifester, et cette originalité ne pourrait être manifestée que par le corps professoral à qui il faut faire plus confiance.
Merci
à tous les trois, et merci à vous Sophie Vénétité. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du syndicat SNEF-FSU. Vous revenez quand vous voulez, hein. On vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci à vous.
Et bon courage, du coup, alors. Hein.
Merci.
On joue, nous, c'est ça?
Oui, c'est ça. Est-ce que vous croyez que je vais réussir à le dire aujourd'hui?
Moi, j'ai complètement confiance. Ah oui.
Qui c'est qui l'a dit?
Oui, voilà. Dans un instant, à tout de suite.
Ça arrive.
Sud Radio Lourdes.
102.2.
Sud Radio. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Les vraies voix qui sont avec vous ce soir sont Philippe Bilger, Françoise Degoye et Abel Bohy. Êtes-vous prêts?
Vous êtes prêts
à jouer?
C'est le moment le plus important.
Attention, hein.
Il doit être fort, lui.
Et puis 0826-300-300 quand vous avez envie de jouer.
Simon a l'air bon,
non? Voilà, Simon,
vous
appelez.
Attention, le quiz de l'actu.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu.
Vous êtes toujours là, Simon?
Oui, la star incontestablement, oui. C'est vous, Simon, oui. Là, maintenant.
Ça triche déjà, je vois déjà. Tu manques déjà des réponses.
Alors, je les aime, les réponses.
Je rappelle le règlement afin que personne ne se plaigne. Nous posons une question, Judith et moi-même.
Je crois que ça va nous arrêter.
Simon répond. Si jamais Simon ne répond pas, alors là, l'une des trois vraies voix se lance et répond, nous attribuerons
et
les points
répond...
en toute honnêteté.
Et alors, excusez-moi, on répond prénom et nom, s'il vous plaît.
Hein, oui.
De toute façon, c'est une arnaque à chaque fois.
Oui.
Non, prénom et nom.
Comprenez ce seuil de tolérance.
Non, il
n'y
a pas de seuil de tolérance parce que c'est lui qui en profite tout le temps.
C'est parti, Julie,
allez, on enchaîne. Simon, vous êtes prêt?
Oui, tout à fait.
Allez. Alors, qui c'est qui l'a dit? À l'occasion de l'arrivée de la flamme à Marseille, le J c'est le S, la flamme est arrivée.
Ah, qui a dit ça?
Mais
Simon, qui a dit ça?
On a dit que c'était d'abord l'auditeur.
Simon, qui a dit ça?
Il l'a dit.
Mais c'est pas la bonne réponse.
Attends.
C'est Jules.
C'est Attal.
Mais c'est Jules.
Alors,
c'est
donc Attal. Simon, vous n'aviez pas la réponse, s'il vous plaît. Essayez c'est de vous Attal. Discipliner.
Non.
J'ai effectivement entendu donc la réponse de Philippe Bilger. C'est bien Gabriel Attal qui salue l'invitation du rappeur Jules parce que c'est l'expression
paroles,
de Jules.
C'est le sang
qui est devenu un grand classique qui désigne un ami. Donc ça fait pour Philippe Bilger deux points. Question à un point. Qui c'est qui l'a dit? Je dirais que c'est un premier rendez-vous. Cette presta de l'Eurovision, on l'a pensé comme ça. On veut que la personne qui regarde soit en immersion avec moi. Simon, répondez, qui a dit ça?
Je sais pas.
Il parle de président de la République.
Bah non, il parle d'Eurovision. J'ai...
Non, c'est la chanteuse qui va nous représenter.
Alors,
là, j'ai pas guisé.
Simon,
pas
vous l'avez pas?
On sait pas qui va nous représenter surtout.
Ah bon?
Si.
Non.
Mais
pourtant,
moi, je m'en souviens pas.
Personne
et
ne l'a.
C'est un homme, oui. Slimane.
C'est Slimane. Comment vous ne savez même pas Slimane
non.
avec
ben
sa
non.
voix exceptionnelle?
Non,
je suis déçu, ma Françoise.
Je sais, mais parce que je regardais surtout comment était en train de se faire huer de façon lamentable la représentante israélienne.
On va en reparler. Qui l'a dit? La liste de la majorité est trop faible pour faire croire à un match avec le RN.
Alors, Simon, qui a dit ça?
Je dirais que c'est quelqu'un de LR.
Oui. Allez-y.
François Bellamy.
Vous l'avez,
bravo
Simon. 3 points et vous prenez la tête. Vous prenez la tête. On continue
aussi.
Toujours pour 3 points. Qui c'est qui l'a dit? Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, dans tous les aspects de ma vie, et je veux juste vous remercier d'en faire partie. Qui a dit ça? C'est une grande star. On vous écoute, Simon.
Ah mais je sais.
Il y a qu'à moi.
Non.
Taylor Swift.
Bravo.
Taylor Swift, Françoise Degoye qui prend 3 points. Les gens sont à égalité. Tout va se jouer donc là-dessus.
C'est le money time.
Tout se joue là-dessus.
Qui sait qui l'a dit? Des civils ont été tués à Gaza à cause de ces bombes. C'est mal. Nous ne livrerons pas les armes et les obus d'artillerie.
Simon, qui a dit ça?
C'est un représentant des États-Unis, mais.
Alors, allez-y. C'est qui?
Joe Biden.
Vous avez gagné, Simon. Vous êtes le grand vainqueur ce soir, Simon.
Bravo.
Et je peux vous dire que les trois vraies voix l'avaient évidemment.
Ouais.
Bravo, je vous aime les trois vraies voix. Vous avez su respecter le règlement. Franchement, vous me touchez ce soir.
Non, mais comment vous pouvez, je me suis dit, mais comment vous pouvez le supporter comme
mais
ça
tous les jours.
C'est dingue.
0826
0,36 300 300, si vous voulez jouer, vous nous appelez, vous le savez, Kiki c'est qui c'est l'a dit et tout ça. Voilà. Dans pas longtemps, ça va être le tour de table de nos vraies voix. Et puis vous avez la parole avec Félix Mathieu, à tout de suite.
Sud Radio Libourne
106
Sud Radio.
This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. You come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey. Come take it to the floor now. Woo! There's a tornado.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a fake, come take it to the floor now. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, spice, oops. To the flow now, ooh.
Sud Radio.
Sud Radio.
Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing no. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I miss you know.
I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Our call, we rise and we fall.